Voici le journal, une présentation de Marie-Françoise Ewolu.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Sécurité internationale, le Cameroun fait un pas de géant et se positionne comme leader en matière d'aviation civile en Afrique. 99 experts de 14 pays prennent part à ces universités de la sécurité organisées à Yaoundé. Pouvoir d'achat des ménages camerounais, de belles perspectives à l'aune du budget 2025. Une priorité du gouvernement face aux chiffres clés des récentes enquêtes sur les ménages. Le dossier du Trésor sur la récente circulaire du chef de l'État sur le projet de budget 2025, ce qui est préconisé pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages et les petites astuces pour faire face à la vie chère. Sport, Tour du Faso, le Camerounais Clovis Camzon à Bosolo effectue une remontée au cours de la quatrième étape qui s'est courue hier. Le sprinteur camerounais occupe le sixième rang au classement de cette étape. Et puis le dixième championnat d'Afrique des clubs seniors de volleyball zone 4 se poursuit à Brazzaville au Congo. Le PAD, deuxième du classement, affronte en ce moment le leader Garde Républicaine Volleyball dans une lutte pour le leadership. Sécurité internationale, le Cameroun fait un pas de géant et se positionne comme leader en matière d'aviation civile en Afrique. 99 experts de 14 pays prennent part à ces universités de la sécurité organisées à Yaoundé. Le rendez-vous qui met en relief le nouveau passeport biométrique et les nouvelles normes en matière de sécurité connaît le haut soutien du président de la République. Le délégué général à la sûreté nationale, Martin Barganguilé, préside les travaux en présence de personnalités du monde de la sécurité aérienne, notamment le ministre des Transports, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la Gendarmerie nationale. Un rendez-vous qui souligne l'importance de l'innovation et des normes internationales pour renforcer la place du Cameroun sur la scène mondiale. Charles Lebon-Nouisso.
Le Cameroun est le cœur de la sécurité dans l'aviation civile en Afrique, en réunissant 95 experts dans le cadre d'un séminaire voulu par le président de la République pour marquer la volonté du Cameroun de devenir la référence en matière de sécurité aérienne en Afrique. En accueillant les spécialistes du Canada, de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande, de l'Angola, du Tchad, de la RDC, du Nigeria et d'autres pays d'Afrique, l'organisation met en lumière l'importance d'un dialogue international pour relever les défis contemporains. En s'affirmant comme l'université des questions de sécurité, le Cameroun non seulement partage son expertise, mais favorise également l'innovation à travers des solutions comme le passeport biométrique. La rencontre de Yaoundé, présidée par le délégué général à la sûreté nationale, Martin Barganguilé, connaît également la présence des autorités du monde aéronautique international. On note également la présence du ministre des Transports et du secrétaire d'État à la Défense en charge de la Gendarmerie nationale. Ce leadership positionne le Cameroun comme un acteur clé dans la sécurité et la facilitation des échanges aériens sur le continent.
Sur l'objet et les attentes de l'atelier de renforcement des capacités en matière de sécurité et de mise en œuvre du nouveau passeport biométrique, je vous propose d'écouter M. Zoé Etundi. Il est représentant du Cameroun auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'extrait est capté par Charles Lebon-Nouisso.
Les chefs d'État de l'Afrique centrale ont pris une décision de mettre en œuvre la libre circulation des personnes dans la région CEMAP. Le grand défi que cette décision apporte, c'est de pouvoir effectuer des contrôles aux frontières pour permettre à la libre circulation d'être effective. Comme nous serons une zone de libre circulation, le leadership du Cameroun a été d'inviter les autres pays de la sous-région de se mettre dans ce système qui va réduire les coûts de vérification, d'installation des infrastructures aux frontières. Et tel que les choses se présentent, les pays de la CEMAP sont représentés. Nous avons aussi choisi les régions voisines.
Un colloque international s'est ouvert ce matin au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Les travaux réunissent des enseignants et des invités de la sous-région Afrique centrale et présentent trois enjeux majeurs, historiques, transgénérationnels et épistémiologiques. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famindongo, avec à ses côtés le vice-premier ministre Jean Nkwété, professeur associé à l'université de Yaoundé 2 et ancien président de la commission de la CEMAC. Le Cercle des Amis du Cameroun en déploiement caritatif à Oubala, dans le département de la Lékié, région du centre, sous la houlette de Marguerite Mbela Mbela, représentante personnelle de Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du CERAC, le volet diplomatique de cette institution remet des dons sous jour aux jeunes agriculteurs, orphelins et veuves de la localité. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette cérémonie qui commence en ce moment même à Oubala. Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 7 minutes à Yaoundé. Le Cameroun, pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure selon le Fonds monétaire international, connaît une inflation modérée de 5,9% à la fin de 2023. Celle-ci devrait continuer à reculer pour atteindre 5,5% d'ici à la fin de 2024. Des perspectives qui doivent permettre de secouer le joug de l'inflation car jusqu'ici, deux Camerounais sur cinq vivent en dessous du seuil de la pauvreté selon deux rapports d'enquête menés auprès des ménages par l'Institut national de la statistique. Sylvain Yangman.
Les résultats de deux récentes enquêtes camerounaises auprès des ménages pilotées par l'Institut national de la statistique indiquent que deux Camerounais sur cinq vivent en dessous du seuil de pauvreté, estimé à 813 francs CFA par jour et par personne. Éric Stéphane Ngambi, économiste financier.
Sur la période de septembre 2024, une hausse du niveau général des prix de l'ordre de 0,8 points de pourcentage. Le taux d'inflation 4,4% par rapport à septembre 2023, selon un rapport publié en octobre 2024. Cette progression est justifiée par l'augmentation des prix des biens et des services locaux, induit par les obstacles aux échanges commerciaux et à l'augmentation des prix des carburants.
Des causes, il y en a encore. Martel, l'économiste et logisticien des transports, Julien Ongeniateba.
Deux citoyens sur cinq, on a là près de 25% de la population du Cameroun qui vit en dessous de cette pauvreté, corrélée à l'inflation. Entre 2023 et mars 2024, l'inflation, par exemple, au niveau des pays de la CEMAC est passée de 4,8% à 4,5%. C'est encore au-delà des critères de convergence de la CEMAC qui sont de 3%.
Le Cameroun, première économie de la CEMAC, peut pourtant sortir de l'impasse. Docteur Julien Ongeniateba.
Il faut bien que l'augmentation des salaires soit le double du taux d'inflation. Ce n'est pas seulement les salaires du public, mais également des privés et autres investis dans la production.
Le gouvernement camerounais dispose d'une gamme variée pour l'embellie économique, explique le docteur Éric Stéphane Ngambi.
Œuvrer à la décélération de l'inflation, impôts substitution, accompagnement technique et financier des producteurs et artisans locaux, aux incitations fiscales des entreprises à la production, au contrôle efficient des prix des produits de base, l'aide au secteur agricole et pastoral, la mise en place d'une politique monétaire accommodante afin de juguler les tensions inflationnistes.
Et les indices de pauvreté pourront reculer au Cameroun.
Dans la région du Nord, les ménagères doivent faire preuve d'ingéniosité face à la vie chère. Si certaines optent pour la gestion rationnelle de leur budget, d'autres profitent des marchés périodiques pour se ravitailler. Les astuces et bons plans des ménagères de la ville de Garoua, c'est dans ce reportage de Arsène Deli Kamanda, CRTV Nord.
Les ménagères de la ville de Garoua font face au défi de la vie chère, mais elles ne se laissent pas abattre. Suzanne, mère de 8 enfants, gère son budget rationnellement pour réduire ses dépenses et planifier les repas.
J'ai un demi, la patate, 1000 francs. Et puis je paye le poisson pour 500. J'ai fait une pâte d'arachide, j'ai malaxé. Les enfants sont fiers de manger ça.
Honorine, tout comme Maman Aïcha, profite des marchés périodiques pour se ravitailler en denrées alimentaires à moindre coût.
Le marché de Takasco, dans le marché j'ai à 500. Mais quand tu parlais rencontrer hors du marché, c'est à 300. Je vais là-bas chaque samedi pour me ravitailler à bon prix.
Le marché de Ouro-Labo. Là-bas, les choses sont abordables par rapport au marché de Yeloa. Et je vais donc me ravitailler parfois pour le mois la tasse d'arachide, tu peux avoir l'assiette, 700, 650.
Mais les ménagères de la ville de Garon ont aussi trouvé des solutions innovantes.
On fait les tontines en groupe, par exemple le sac d'oignon, le crevette, l'ail et l'haricot, on partage entre nous.
Résoudre l'équation de la vie chère pour les femmes de la région du Nord est certes difficile. Cependant, elles font preuve de résilience et de créativité pour trouver des solutions palliatives et assurer le bien-être de leur famille. Garoua, Arsène Delikamanda, CR TV.
L'amélioration du pouvoir d'achat des ménages constitue l'une des priorités du budget de l'État 2025 en cours d'élaboration. Pour remplir le panier de la ménagère, les économistes et experts financiers préconisent d'investir dans le secteur productif, notamment l'agriculture et les biens et services de grande consommation. La politique d'import-substitution inscrite dans la stratégie nationale de développement SND 30 est également citée en exemple. Séraphin Djikam.
Le constat est saisissant. Le panier de la ménagère perd son volume de jour en jour au Cameroun. L'économiste Dieudonné Soumba donne quelques explications à ce sujet.
Nous importons le poisson, nous importons le riz, nous importons la farine, nous importons... Donc, les prix sont d'abord définis par l'extérieur qui nous vend.
Professeur Bruno Ongonkwa, économiste enseignant à l'université de Yaoundé 2, soit...
Nous avons premièrement la faible production des biens et services de grande consommation, car le marché sur le plan national n'est pas encore inondé en produits camerounais, ce qui rend notre pays peu compétitif.
Que faire pour améliorer le faible pouvoir d'achat des ménages? Des pistes de solutions sont proposées.
Augmenter les revenus, c'est augmenter l'activité. Par exemple, on est bien doté sur le plan de l'agriculture. Nous avons des biens d'usage courant, les cartables scolaires, les babouches, les ustensiles de cuisine et autres. Tous ces produits-là, qui sont des technologies simples, sont importés. Donc quand ils sont importés, ça veut dire que nous avons exporté l'activité. Vous ne pouvez pas avoir exporté toute l'activité. Vous ne produisez rien et vous dites que vous allez augmenter les revenus.
Pour réaliser les ambitions du budget de l'État 2025 qui met en avant l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, il est impératif de réduire les importations en finançant davantage la production, de poursuivre l'implémentation complète de la politique d'import-substitution.
Préserver le pouvoir d'achat des ménages et promouvoir les activités à haute intensité de main-d'œuvre rémunérée, deux orientations phares prescrites par le président de la République aux acteurs de la chaîne de préparation du budget 2025. Une préparation placée sous le signe d'un budget d'impulsion socio-économique. Toussaint Bemanya.
L'amélioration du pouvoir d'achat des populations occupera une place de choix dans le budget en préparation. Il s'agira de renforcer le caractère inclusif de la croissance économique à travers la promotion des approches à haute intensité de main-d'œuvre, poursuivre la mise en place du registre social unifié, intensifier le projet filet sociaux en élargissant le nombre de bénéficiaires, poursuivre aussi le relèvement du plateau technique des structures hospitalières et promouvoir l'offre d'infrastructures scolaires au niveau local. Autant d'actions qui visent à préserver le pouvoir d'achat des ménages et faciliter leur accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau et à l'électricité. Pour ce qui est des agents publics, il est attendu l'assainissement du fichier solde pour garantir une dépense salariale de qualité, notamment à travers la mise en service de l'application informatique de gestion logique des effectifs de l'État et de la solde, la réduction de la dette salariale due aux agents publics, l'assainissement des allocations familiales et la sortie définitive du fichier solde de l'État des agents publics définitivement reconnus absents ou suspendus. Le président de la République prescrit enfin dans sa circulaire une préparation adéquate de la masse salariale de façon à assurer le paiement régulier des salaires et l'apurement progressif de la dette, y compris la prise en charge des recrutements planifiés.
La situation des filles dans le monde en 2024 préoccupe les décideurs car elles sont toujours victimes de nombreuses violences, surtout en zone de conflit. Une enquête de plaidoyer intitulée « Nous rêvons encore » vient d'être menée par l'organisation humanitaire Plan International auprès de 1000 jeunes provenant de 10 pays en situation d'instabilité. La présentation du rapport est en cours à Yaoundé sous la houlette du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abenaoundoua. Les précisions de Djuley Kaoumar Waliou.
C'est un rapport de la situation des filles dans le monde qui s'appuie sur l'expérience des jeunes dont le quotidien est dominé par les conflits. Effectué globalement par plan international, l'enquête qui a inclus pour la première fois les garçons a été réalisée auprès de 1000 enfants et jeunes âgés de 15 à 24 ans. 27% des filles et 17% de garçons ont cité la violence et l'agression sexuelle comme principal risque. Au Cameroun, par exemple, les filles font également face aux défis en matière d'éducation, de santé, de protection, de manque d'opportunités pour les jeunes, mais aussi font face à des contextes de crise multiples souvent négligés. À ceci s'ajoutent les changements climatiques, les conflits interethniques et transfrontaliers. Mettre donc fin à ces pratiques et garantir que les filles puissent grandir dans un environnement sûr et protecteur reste un défi pour tous, selon le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abinaondoa. La cérémonie de présentation officielle ambitionne de mettre en lumière les défis et les opportunités auxquels les filles et les jeunes femmes sont confrontées, en particulier dans les zones affectées par les conflits.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 17 minutes à Yaoundé. Le projet de budget 2025 de la CEMAC est arrêté en ressources et en emploi à la somme de 82,9 milliards de francs CFA, soit une diminution de 8,39% par rapport à 2023. Un budget contraint par un contexte économique mondial complexe, selon le vice-président de la commission de la CEMAC, Dr Charles Assamba Ongodo, était hier face au Parlement comme notaire de la CEMAC à l'hémicycle de son siège à Malabo, en Guinée équatoriale. Il a été joint au téléphone par Sylvain Yangman.
Il est à relever que la mobilisation de la tasse communautaire d'intégration, en raison de la faiblesse du rythme de cette mobilisation, amène aujourd'hui la communauté à devoir préparer et présenter un budget réaliste par rapport à 2024. Pour l'exercice 2025, la politique budgétaire va se concentrer sur les initiatives visant à améliorer davantage la mobilisation des ressources propres et à contenir certaines dépenses non prioritaires. Ce budget se prépare dans des hypothèses qui visent la poursuite et la dynamisation de la mise en œuvre du plan d'action quinquennal amorcé en 2023 en instaurant la crédibilité de la Commission par la bonne gouvernance. Le déploiement du plan de transformation issu des recommandations formulé par le cabinet d'audit et validé par le Conseil des ministres.
Le projet de budget 2025 est en diminution de 8,39% par rapport à 2024. L'Organisation des producteurs de pétrole africain, en abrégé APO, organise ses réunions statutaires 2024 à Yaoundé. Il s'agit de la 19e réunion ordinaire du Conseil exécutif et de la 46e session ordinaire du Conseil des ministres. La rencontre placée sous le très haut patronage du président s'est ouverte à l'hôtel Hilton ce matin. Il s'agit pour les participants d'établir des partenariats fructueux pour le développement de l'industrie du pétrole en Afrique. Prisca Njeng Mangolo.
Garantir l'accès à l'énergie à près d'un milliard d'habitants qui en sont privés ou s'éloigner des énergies fossiles au nom de la transition énergétique, la préoccupation interpelle le continent africain à l'heure où le changement climatique tend à faire de l'exploitation pétrolière le bouc émissaire désigné. Les experts du Conseil exécutif sont réunis en ce moment au Hilton Hotel de Yaoundé avec au centre des débats la question des opportunités d'investissement pour une transition énergétique juste. Il est surtout question de trouver un juste équilibre entre l'impératif d'atténuation des changements climatiques et la nécessité d'éviter des bouleversements sociaux qui pourraient résulter de conditions économiques et financières difficile en Afrique. L'autre défi auquel est confronté le secteur de l'énergie en Afrique, tel qu'identifié par une étude de l'Organisation des producteurs du pétrole africain, APO, est la question du financement de l'industrie pétrolière et gazière. Ainsi, les pays africains, longtemps dépendants des fonds étrangers, ont décidé d'apporter une solution à ce problème en mettant en place la Banque africaine de l'énergie. Elle est donc une réponse à la crise de financement qui se profile dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. La banque est appelée à soutenir les projets de développement des autres formes d'énergie.
À l'étranger, attaque djihadiste au Tchad, la riposte gouvernementale en réponse de l'assassinat d'une quarantaine de soldats tchadiens dans une base militaire armée située près de la frontière du Nigeria. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a lancé l'opération Askanit pour traquer et neutraliser les assaillants. L'origine de cette attaque meurtrière viendrait du soutien en armement du Tchad au Soudan en guerre. Notre reporter Clarisse Njanga a échangé avec un international. Voici ce que l'on retient.
L'armée tchadienne n'avait pas connu de bilan aussi lourd depuis au moins 4 ans. Une quarantaine de soldats tués selon un communiqué de la présidence du Tchad. Les assaillants, venus en très grand nombre tard dans la nuit de dimanche, ont dominé les plus de 200 militaires qui constituaient la garnison de la base avancée située sur l'île de Bakaram, tout près de la frontière du Nigeria. Simon-Pierre Ongbanbida, le chef d'antenne protocolaire et consulaire du ministère des Relations extérieures à Douala, y voit un message djihadiste.
Pour que Boko Haram existe et continue d'agir comme il agit, c'est qu'il a des soutiens, tous les moyens pour se procurer des armements. Donc on se demande, est-ce que ce ne serait pas pour fragiliser le gouvernement tchadien, l'armée tchadienne par rapport à ce soutien apporté à une faction soudanaise.
En quittant la base militaire au petit matin, les assaillants ont emporté un important lot d'armes et de munitions avant d'incendier le camp. Rendu sur les lieux tôt lundi, le président Mahamat Idriss Déby Itno a aussitôt lancé l'opération Askanit pour poursuivre et traquer les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement.
L'armée tchadienne, le gouvernement tchadien ont pris la bonne option d'attaquer parce qu'une position purement défensive n'est pas toujours bonne. Il vaut mieux asseler ces criminels terroristes qui perturbent l'économie et le fonctionnement du pays.
C'est depuis plusieurs semaines que les djihadistes de Boko Haram écument la zone marécageuse qui ceinture la base militaire de Barkaram, attaquant et pillant agriculteurs et pêcheurs de la région.
En sport, le 10e championnat d'Afrique des clubs seniors de volleyball zone 4 se poursuit à Brazzaville au Congo. Lito Team et Port Autonome de Douala sont concernés par les rencontres de la 6e journée ce mardi. Le PAD, 2e du classement, affronte en ce moment le leader Garde Républicaine Volleyball dans la lutte pour le leadership. Lito Team, également dans la course à la première place, entre en scène à 15h cet après-midi contre la Lanterne Rouge, le club Saint-Michel. Les formations camerounaises assument pleinement leur statut de candidat au titre. Russell Oriani.
Bien que 6e de la 4e étape,
des matchs sensationnels, des points d'exception et des victoires à l'appel, les formations camerounaises donnent du fil à retordre à leurs adversaires à Brazzaville. Les filles de Lito Team imposent une domination sans partage dans le tableau féminin. Un jeu flamboyant, sublimé par des individualités au sommet de leur art. 4 victoires, 12 points et une attaque qui tourne à plein régime. Cette dernière a inscrit 397 points, le total le plus élevé de la compétition. Les joueuses de Will Soguet n'ont égaré qu'un set dans leur aventure. Elles possèdent 6 longueurs d'avance sur la Dauphine au classement, la DJSP. L'attaquante Lucie Bidza et ses partenaires, déjà qualifiés pour la finale féminine, mènent la barque avec autorité, quasiment sur les mêmes bases que Lito Team Messieurs et Port Autonome de Douala, les ambassadeurs du Cameroun chez les hommes. Les deux clubs, acteurs d'une lutte à trois pour la couronne de champion, se heurtent à la forme olympique de la Garde républicaine, l'actuel leader du classement. Les trois formations se tiennent dans un mouchoir de poche, séparés de 2 points. Le PAD, sur une dynamique de 2 succès de suite, affronte la Garde républicaine. Port Autonome de Douala totalise 4 victoires pour une défaite, le même bilan comptable que présente Lito Volleyball Messieurs. Les vice-champions du Cameroun 2024 sont 3e. Ils affrontent ce jour le club Saint-Michel. Lito aborde ce duel en position de force. Son adversaire a élu domicile au dernier rang et n'arrive pas à se détacher de ses résultats décevants. 5 matchs et autant d'échecs pour la formation congolaise.
Tour du Faso, cyclisme, le Camerounais Clovis Camzon à Bosolo effectue une remontée au cours de la 4e étape qui s'est courue hier. Le sprinter camerounais occupe le 6e rang au classement de cette étape. Le point de la compétition, Ariel Olivier Zoua.
Bien que sixième de la quatrième étape, le Camerounais Clovis Camson Abosolo se positionne cinquième au classement général avec 2 minutes 10 secondes de retard sur le maillot jaune. Clovis Camson Abosolo surclasse ainsi son coéquipier Rodrigue Quirinounaoué qui recule au 13e rang. Le russe Anton Popov remporte la quatrième étape en 2h47 minutes 49 secondes. C'est une deuxième victoire d'affilée pour le sprinteur de l'équipe russe qui s'impose devant le Marocain Adil El Arboui et le Malien Yaya Diallo. La cinquième étape se court aujourd'hui entre Bobo Dioulasso et Banfora, longue de 85,5 km avec 58 coureurs sur le départ. La team Cameroun compte bien améliorer sa performance dans l'espoir d'accrocher une victoire d'étape à défaut d'une place sur le podium.
Clap de fin pour le tournoi SNH Open de Golf édition 2024. Des trophées et des récompenses multiformes pour les vainqueurs de la compétition qui a duré 5 jours au Golf Club de Yaoundé, ainsi qu'une cagnotte de 16 millions de francs CFA offerte par la Société Nationale des Hydrocarbures. La cérémonie de clôture était présidée par Nathalie Moudiki, chef de la division juridique de la SNH, représentante de l'administrateur directeur général Adolphe Moudiki, avec à ses côtés le docteur Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africain. Notre reporter de CRTV Centre était parmi les golfeurs. Voici son reportage. Il s'agit de Esther Ngbaïsou.
Les vainqueurs du tournoi SNH Open de Golf 2024 marquent d'une empreinte indélébile le mouvement golfique camerounais. Le trophée, accompagné d'autres récompenses, ont couronné les efforts fournis par ces golfeurs. Otto Philippe, vainqueur du tournoi.
Un très grand merci à la SNH parce que depuis que nous jouons au golf à Yaoundé, c'est la première fois au Cameroun que ça se passe comme ça. On est tellement contents, c'est pourquoi on a fait de notre mieux.
La Société Nationale des Hydrocarbures, un acteur majeur du mouvement sportif camerounais, a mis les petits plats dans les grands pour redonner à la pratique du golf ses lettres de noblesse au Cameroun. Le personnel de la SNH, déployé en grand nombre sur le parcours, a démontré son attachement au mouvement golfique. Nathalie Moudiki, chef de la division juridique de la SNH, représentante de l'administrateur directeur général.
À l'initiative du ministre Adolphe Moudiki, qui en visionnaire, le golf représente également une des disciplines sportives où le vivre ensemble trouve son expression la plus éloquente. C'est d'ailleurs cette occasion fondamentale que notre société est restée depuis plus de 2 décennies un partenaire fidèle et constant du golf au Cameroun.
Le vœu du vice-président du Golf Club de Yaoundé est de voir la SNH continuer cette œuvre. Dr Peter Bondy, vice-président du Golf Club de Yaoundé.
Cette compétition vraiment vient remettre les standards de la SNH à niveau et nous a donné un prestigieux moment. Nous disons merci à la SNH.
La SNH signe ainsi son grand retour et compte rester aux côtés des golfeurs pour la vulgarisation de cette discipline sportive. Un banquet animé par les artistes du terroir et la remise des cadeaux spéciaux de l'administrateur directeur général ont ponctué les activités du tournoi Open de Golf SNH 2024.
Cette note politique au bas de cette page sportive, dans le cadre des préparatifs des festivités marquant la célébration du 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, le président du bureau de section RDP Seignon Infumu Nord, maire de la commune d'Ayos Paul Ndongo Biko, invite les forces vives, tous les responsables de la section RDPC d'Union Infumu Nord, les militants, les conseillers régionaux, à bien vouloir prendre part à la réunion préparatoire qu'il présidera personnellement le dimanche 8 novembre 2024 dès 13h précises. Ce sera à la salle des actes de la commune d'Ayous. À présent, voici le condensé des nouvelles du jour en anglais. Patience Wiringo.
Good afternoon. About 100 experts from 14 countries, including Cameroon, are meeting in Yaoundé for a 3-day capacity building workshop on public key directory organized by Cameroon and the International Civil Aviation Organization. The event holding at the Civil Aviation School in Simalen, Yaoundé, has been opened by the Delegate General for National Security, Martin Barangangele, who urged participants to take advantage of the opportunity to enhance border facilitation and control systems in Africa. elsewhere, improving and preserving the purchasing power of households and promoting labor-intensive paid activities remain key preoccupations to the government. These are the two key guidelines laid down by the President of the Republic to the players involved in preparing the 2025 budgets. And elsewhere, the First Lady's Circle of Friends of Cameroon Serac is in Obala Lekie Division of the Center Region, led by Mrs. Marguerite Mbelambela, representative of the First Lady. The members of the diplomatic wing of Mrs. Chantal Biya's Humanitarian Association will make donations to young farmers, orphans, and widows in Obala. And in sports, Port Autonome of Douala have beaten GAD Republicain Volleyball of the Republic of Congo by 3-0 to move to the top of the ongoing African Volleyball Zone 4 Club Championship. Following the victory against the host club, the Douala Volleyball Club is a step closer to becoming champions in the men's category. Meanwhile, Lito Volleyball Club, Steel of Douala, are unbeaten in their four outings in the championship.
À retenir de cette édition qui s'achève, sécurité internationale, le Cameroun fait un pas de géant et se positionne comme leader en matière d'aviation civile en Afrique. 99 experts de 14 pays prennent part à ces universités de la sécurité organisées à Yaoundé. Le rendez-vous qui met en relief le nouveau passeport biométrique et les nouvelles normes en matière de sécurité connaît le haut soutien du président de la République. La cérémonie est présidée par le délégué général à la sûreté nationale, Martin Barganguélé. C'est la fin de cette édition du Trésor. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.